autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, en cette semaine de la fête de la science, avec Hugo Violas à la réalisation, pour mener l'enquête sur les sciences du crime, en remontant sur les traces du pionnier de la police scientifique, Alphonse Bertillon, ses techniques d'identification dès la fin du 19e siècle, le bertillonnage, inspire toujours les experts d'aujourd'hui, qui ont désormais de plus en plus d'outils génétiques, chimiques, biométriques, numériques, pour ficher et identifier les coupables. Comment la science a-t-elle réussi à faire parler les indices les plus ténus, à explorer la matière au-delà du visible et jusqu'au cœur même de la cellule? Quels enjeux policiers, scientifiques, mais aussi politiques et éthiques se cachent derrière ce travail d'expert, puisque le diable, on le sait, se niche toujours dans les détails? Regard croisé du commissaire Richard Marley, qui a dirigé le service de l'identité judiciaire au 36 quai des Orfèvres, et du chercheur en sciences politiques et sociales Pierre Piazza, commissaire de l'exposition « La science à la poursuite du crime » aux Archives nationales. Tous deux viennent de publier un ouvrage fascinant, illustré de très impressionnantes photos d'archives, « La science à la poursuite du crime » d'Alphonse Bertillon aux experts d'aujourd'hui. Autour de la question « Comment la science a-t-elle investi les scènes de crime ?» Bienvenue pour nous refaire le film.
Alphonse Bertillon, né le 22 avril 1853, considéré comme le fondateur de la police scientifique.
En fait, aucune empreinte ne trouve au monde sa semblable. Cette poudre extrêmement fine et adhérente va permettre de nous les révéler sur les parties lisses des objets où elles ont été apposées. Vous imaginez l'intérêt capital de ce procédé pour l'identification criminelle.
L'impact de Bertillon dans notre travail est vraiment très important, voire primordial, puisqu'il a créé des choses, il a créé des façons de travailler dont on te sert encore.
Il faut que je vous prévienne, je n'ai pas encore les résultats de l'ADN. Mais j'ai passé deux ou trois résultats d'analyse dans mon ordinateur et j'ai décroché le gros lot.
Quel est le nom?
J'ai fait un nouveau test à la protéine et au mitochondrial. Ça a été rapide.
Le nom?
Ray Gunter.
J'ai de l'aluminium et du titane. J'en ai trouvé d'infimes particules dans la plaie du lieutenant Ellis. Alors, je suis partie de l'angle de l'impact, de la profondeur de la plaie et de la densité osseuse pour créer une simulation du meurtre. T'essaies de localiser le portable de la directrice?
Oui, ça y est, je l'ai localisé, autour d'une demi-douzaine d'antennes différentes.
Il l'a appelé d'une voiture?
Qui descendait la 395.
Il y a eu d'autres appels?
Le portable a été coupé, peut-être même jeté. J'ai repéré précisément le dernier endroit d'où il a émis.
Super!
Bonjour, commissaire Richard Marley.
Bonjour.
Bonjour, Pierre Piazza.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être en direct avec nous pour partager votre science à la poursuite du crime d'Alphonse Bertillon aux experts d'aujourd'hui. C'est le titre de l'exposition actuellement aux Archives nationales et de l'ouvrage fascinant que vous publiez aux éditions de La Martinière. Alors, il faut dire, Richard Marley, que vous êtes un peu le Bertillon des temps modernes. C'est comme ça qu'on vous appelle. C'est pas moi, hein. C'est le préfet de police qui l'a dit le jour de votre départ de la PJ. Vous avez en effet, en 10 ans, à la tête de l'identité judiciaire au 36 quai des Orfèvres, fait basculer la police de Maigret dans le siècle des experts en introduisant toutes les techniques les plus modernes des sciences forensiques. Vous avez monté une unité d'identification des victimes qui a servi notamment en Thaïlande après le tsunami, mais aussi à identifier les victimes des attentats, du RER parisien, l'accident de Lady Di ou les tueurs en série comme Guy Georges et Thierry Paulin. C'est d'ailleurs, Richard Marley, alors que vous étiez tout jeune commissaire sur votre toute première scène de crime, qui sera attribué à Thierry Paulin, que vous avez, compris l'intérêt de développer cette science du crime.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que je suis sorti de l'école des commissaires de police, je crois en septembre 1984, et un mois après, j'intervenais sur ce qu'allait être ma première scène de crime, et c'était, on venait de découvrir le corps d'une petite dame qui s'appelait Suzanne Foucault.
Vous savez encore son nom?
Ah oui, bien sûr, ouais, qui habitait au 10 rue Nicolet, sur le 18e arrondissement. Elle avait été étranglée, étouffée, et l'auteur avait mis le feu à l'appartement. Donc évidemment, quand vous découvrez ce genre de scène, ça vous marque. Mmh. Et j'ai suivi la série d'homicides commis par celui qu'on avait bientôt appelé le tueur des vieilles dames. Et en m'y intéressant, en fait, j'ai découvert que Thierry Paulin, celui qu'on allait identifier comme étant Thierry Paulin, laissait beaucoup, beaucoup, beaucoup de traces digitales, au point que alors, j'étais loin d'imaginer qu'un jour j'allais commander les gens de l'identité judiciaire, au point que les gens de l'identité judiciaire étaient capables de dire, en fait, nous sommes en face d'un tueur en série, ce qui, en France, était... n'existait pas.
Ils étaient capables de le dire, mais ils n'étaient pas capables de l'identifier.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on est, en fait, on trouvait plusieurs fois le même pouce droit, plusieurs fois le même index gauche, mais à l'époque, les fichiers étaient manuels et ils étaient régionaux. Donc en fait, les gens, pendant des mois, pratiquaient des comparaisons systématiques. Tous les gens qui étaient conduits au dépôt, on prenait leurs empreintes digitales, on vérifiait, il y avait des opérations où on interpellait des dizaines et des dizaines de personnes. On vérifiait, on comparait les empreintes digitales sur les traces trouvées sur les scènes des crimes. Et ça ne marchait pas. Il faudra la diffusion d'un portrait robot et d'un signalement pour que mon collègue Francis Jacob arrête Thierry Paulin.
Et donc c'est là que vous êtes rendu compte de l'importance, quoi, de poursuivre, mais avec les techniques modernes, ce qu'avait démarré Alphonse Bertillon,
oui,
donc des fichiers, oui, et centralisés.
Oui.
Et
c'est exactement ça, en fait. Et après, ce qui m'a convaincu d'être obligatoirement à l'heure, c'est lorsque je croise un deuxième tueur en série, qui est Guy Georges. Donc Guy Georges, lui, il est technicien de scène de crime niveau 1. Il a eu beaucoup de formation en détention. En fait, il sait très bien qu'il faut faire extrêmement attention aux traces digitales. Entre-temps, on a créé un fichier automatisé des empreintes digitales, hein, 87. Mais il laisse des traces biologiques. Et là, l'histoire balbutie. On n'arrive pas à identifier Guy Georges parce que la France n'a pas de fichier automatisé des empreintes génétiques. Donc voilà, c'est voilà un policier d'être obsédé par... on ne doit pas prendre de retard, parce que tous ces retards, ça fait des victimes en plus, des victimes en trop.
Des victimes en trop, voilà. Hein, qui auraient pu être évitées...
Oui, si je reprends l'exemple des empreintes digitales et de leur informatisation, en fait, les Canadiens avaient commencé à numériser leurs empreintes digitales en 1970. Donc le FAED, le fichier automatisé, sera créé en 1987 et la préfecture de police et la gendarmerie nationale ne seront connectées au grand système national qu'en 1994.
On va y revenir, hein, parce que c'est grâce à vous s'il y a eu cette connexion. Enfin, c'est vraiment grâce à vous. Mais jusqu'où, finalement, la science peut-elle poursuivre le crime? Pierre Piazza, vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'université de Cergy-Pontoise. Vos travaux portent sur les dispositifs étatiques d'identification des personnes, criminelles ou non, hein, et les enjeux du bertillonnage jusqu'au fichage bionumérique, pour faire simple. Vous diriez-vous aussi que si les techniques de la police scientifique ont évolué ces dernières années, l'esprit, finalement, les enjeux, les défis, les questions qui se posent étaient là dès le départ avec Bertillon et puis ses successeurs?
Disons que quand on étudie un peu le développement du bertillonnage, on se rend compte qu'en effet... Le bertillonnage, c'est tout ce qu'a inventé Bertillon, c'est-à-dire un système qui permet d'identifier les personnes, qui repose à la fois sur la mensuration du corps, la photographie face profil, le signalement descriptif très rigoureux des personnes, et puis le relevé des stigmates. Bon, ça, c'est, disons, le tronc du bertillonnage, et puis après, il y a tout ce qui concerne l'exploitation des traces, hein, ce qu'on montre dans l'ouvrage, c'est-à-dire que Bertillon va aussi s'intéresser... aux traces, parce que quand on compare les traces sur les meubles, que ce soit des traces palmaires, de plantaires, digitales, etc., qu'il compare à des empreintes à chaque fois, hein, pour établir la présence d'une personne sur le lieu d'un crime, d'une effraction, etc. Donc quand on regarde le bertillonnage, on voit que la façon dont il se construit, en effet, renvoie à des enjeux et des logiques lourdes qu'on retrouve toujours actuellement, même si les technologies évoluent, hein, même si elles permettent de voir le plus petit, disons le minuscule et même l'invisible.
L'invisible, oui.
Maintenant, bien sûr. Bertillon s'intéresse déjà à son époque aux traces les plus infimes. Bertillon développe des systèmes pour ne pas polluer les scènes de crime. Bertillon invente aussi des machines pour, comme ce qu'il appelle la bertillonne, pour transporter les pièces sur lesquelles on trouve des traces jusqu'au laboratoire sans les casser, etc. Il a le souci de centraliser, c'est très très important les informations qu'il collecte. Il a le souci aussi de coopérer à l'international, c'est-à-dire à ce que le savoir se diffuse au-delà des frontières de la France pour pouvoir échanger plus rapidement des informations sur les criminels qui, eux, deviennent de plus en plus mobiles à l'époque. Vous voyez, il y a des logiques très très lourdes qu'on retrouve déjà dans le Bertillonnage.
Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, si j'ose dire, parce qu'on a l'impression que Bertillon, et on va en venir aussi à Edmond Locard, autre pionnier de la police scientifique, que c'est en France que celle s'est développée au départ, cette police scientifique, ou cette approche-là, et puis qu'ensuite elle a été un peu délaissée au profit des anglo-saxons.
Oui, alors en fait, Bertillon, il est à l'origine d'une idée que je qualifie de lumineuse, en fait. Et la littérature du 19e siècle rend bien compte d'un phénomène qui est la variation d'état civil. Quand on prend Les Misérables, en fait, Jean Valjean n'arrête pas de changer de nom. Bon. Quand on prend Le Comte de Monte Cristo, c'est la même chose, Edmond Dantès, Le Comte de Monte Cristo, etc., etc., etc. Et en fait, à la fin du 19e siècle, vous avez une série de lois qui, à la fois, aggrave considérablement les peines liées à la récidive et en même temps institue le sursis. Mais comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un individu lorsqu'on le réarrête, lorsqu'il change de nom ?
Et en fait, l'idée qu'il change d'identité, en fait.
Oui, hein. C'est ça, bien sûr. Et l'idée lumineuse de Bertillon, et c'est ce qu'on retrouve avec les empreintes digitales, c'est de substituer à quelque chose dont on peut changer comme de chemise, ça c'est l'expression de Bertillon, autre chose.
C'est-à-dire le nom, voire même la couleur de
cheveux. Oui, le nom, le prénom, la date de naissance, tout ça, on peut en changer, on peut avoir des faux papiers, etc. Et l'idée, c'est de dire, je vais substituer à ça quelque chose qui ne varie pas. Et pour Bertillon, sont les mensurations osseuses. Mais c'est exactement la même chose avec les empreintes digitales. Voilà, ou l'empreinte génétique, en fait. On substitue, on ne parle plus d'identité. Et en fait, le nom même du service... L'identité judiciaire, c'est pas l'état civil, c'est l'identité ou les identités qu'on peut mettre à un individu et qui intéresse la police ou la justice.
Et qui intéresse toujours la police et la justice. Alors après Bertillon, on va faire très très vite. Il y a donc eu aussi, vous parlez d'un autre expert, et vous aimez beaucoup les archives, et elles sont magnifiques dans cet ouvrage, du professeur Edmond Locard. Alors juste pour le plaisir, justement, des archives, vous qui avez dirigé le service des archives et de la documentation criminelle aussi. Hein, Richard Marlet au 36 quai des Orfèvres. Et puis pour vous, Pierre Piazza, qui puisait dans ces archives de la police, je vous ferai écouter une archive sonore extraite... eue par Lina, extrait du journal des actualités françaises du 22 février 1951.
À Lyon, le professeur Edmond Locard vient de prendre sa retraite après plus de 40 années de lutte quotidienne contre les criminels. Fervent disciple de Bertillon, le professeur Locard contribua grandement à développer ses théories sur l'emploi pratique des empreintes digitales. Ses succès furent innombrables et les vedettes du crime, dont son musée conserve les tragiques souvenirs, se sont inscrites au long d'un palmarès étonnant qui réunit les noms les plus célèbres. La carrière du professeur Locard restera attachée à cette science extraordinaire et trop utile, hélas, la criminologie.
La criminologie ou la criminalistique que vous enseignez, Richard Marlet, à l'université, c'est la même chose ?
Oui, alors j'enseigne la criminalistique ou la police technique et scientifique au sein de l'Institut de criminologie. Ah, donc en fait, et tout à l'heure vous avez utilisé un mot que j'aime beaucoup et que je préfère à criminalistique ou criminologie, c'est science forensique. Mm-hmm. Donc ça c'est vraiment un terme anglo-saxon mais utilisé aussi par les Belges et les Suisses. Les sciences forensiques sont toutes les sciences qu'on peut utiliser à l'occasion d'un procès. Donc en fait, ça donne une vue extrêmement globale. Donc c'est la médecine légale, c'est la toxicologie, c'est la police technique et scientifique, mais c'est aussi l'expertise psychiatrique et la criminologie. La typologie des victimes, la typologie des auteurs, voilà.
Quelque chose et vous que avez d'ailleurs, vous vous êtes inspiré, ce terme science forensique vient effectivement de l'anglais. Vous avez été à Scotland Yard où vous avez ramené toutes ces techniques qui servent à la police scientifique et technique. Vous en faites partager quelques-unes, parce qu'on ne peut pas montrer les photos qu'il y a dans votre livre à la radio, mais moi j'ai envie de m'arrêter sur, je sais pas, cet illuminateur, c'est ça, ce crimescope.
Alors, l'illuminateur, en fait, je ne l'ai pas découvert à Scotland Yard, je l'ai découvert chez Patricia Cornwell.
Dans un roman policier.
Exactement. C'est-à-dire que lorsque j'ai été nommé chef de l'identité judiciaire, franchement, c'était pas trop ma maîtrise d'archéologie étrusque qui allait m'aider.
Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais vous avez fait une formation de.
Oui, c'est ça. C'est un peu particulier. Mm-hmm. Et en fait, donc, je suis un amateur de romans policiers. Et Patricia Cornwell venait de commencer le cycle de Case Carpeta. Et Case Carpeta, qui est médecin légiste, mm-hmm. utilise quelque chose qui s'appelle, qu'elle appelle un lumalite. Ça permet en fait de mettre en fluorescence des traces biologiques et ça permet aussi de révéler des traces digitales.
Des traces digitales, mais des traces de sang aussi.
Oui, bien sûr, tout ce qui est traces biologiques, du sang, du sperme, de l'urine, etc. etc., etc. Et quand on utilise le principe, en fait, c'est d'utiliser la lumière de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet. Hein, pour améliorer le contraste entre la trace et puis son support, pour faire simple. Hein. Et donc j'ai essayé de retrouver ce que c'était que ce lumalite, et en fait là j'ai trouvé qu'il ne s'agissait pas d'un lumalite, mais d'un polylite. Voilà. Donc à l'occasion d'un bout de budget qui devait rester de la Coupe du Monde de 98, je crois que c'est ça.
Vous avez pu investir dans ce...
Oui, c'est ça. J'ai réussi à convaincre mon directeur de mettre quelques deniers dans l'achat d'un premier polylite. Et puis après, on a continué à s'informer. Donc après, il a été remplacé par des crimscopes, des crimlights. Enfin, c'est
et qui
toujours
sont même transportables aujourd'hui.
Absolument,
en fait, c'est ça qu'on peut transporter sur la scène de crime.
Absolument, ils sont tous transportables, mais maintenant les crime lights, en fait, c'est trois petites lampes, trois lampes torches hein, qui sont calées sur un certain nombre, enfin sur des fréquences bien particulières et qui sont d'un usage très courant. Mais Scotland Yard, enfin quand j'ai passé une dizaine de jours là-bas, enfin j'ai découvert que ouais, la police technique et scientifique française avait peut-être 20 ans de retard par rapport à ses collègues britanniques.
Donc aujourd'hui, grâce à vous, entre autres, ce n'est plus le cas. Vous nous diriez ce que c'est que le cyanoacrylate ?
Ah oui, alors, traditionnellement, et déjà chez Bertillon, hein, pour révéler des traces digitales, en fait, on utilise de la poudre et un pinceau. Bon. De plus en plus, on utilise des produits chimiques qui vont aller réagir avec certains composés de la sueur. Donc la sueur, c'est 98% d'eau, mais c'est aussi des corps gras, des acides aminés, etc., 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 etc. Le cyanoacrylate, en fait, moi j'utilise le terme, comme vous d'ailleurs, c'est plus scientifique que superglue, mais en fait c'est la même chose. En fait,
d'accord.
C'est de la cyanolite qu'on fait chauffer, ça finit par se mettre en vaporisation. Là, il y a un phénomène, et là je vais faire mon scientifique, il y a un phénomène de polymérisation sur les corps gras, et en fait les traces apparaissent comme par miracle, elles sont blanches sur un support qui peut varier de couleur, donc on les renforce pour améliorer encore leur lisibilité.
Donc tout ça c'est pour identifier, retrouver, ficher d'abord aussi les criminels et puis ensuite les identifier et les retrouver. Et Pierre Piazza, c'est ça aussi qui pose question, en tout cas c'est là-dessus que vous travaillez, parce qu'effectivement on est tous d'accord pour ficher, identifier et arrêter les criminels.
Je ne sais pas si on est tous d'accord,
les criminels.
Il y a certains qui ne sont pas d'accord.
Voilà, peut-être en plus.
Par exemple, les criminels ne sont pas d'accord.
Ben voilà, mais en tout cas quand on n'est pas criminel et qu'on est fiché ou identifié ou retrouvé ou qu'il y a des fichiers qui ont toutes nos données, là ça nous pose problème.
Non, moi ce qui m'intéresse à travers ça, et c'est pour ça que j'ai travaillé sur ces questions-là depuis un petit moment maintenant, c'est de voir comment aussi l'État s'est construit en s'appropriant des données de plus en plus nombreuses sur les individus, et comment derrière ce processus qui est la montée en puissance de ce qu'on appelle maintenant la police technique et scientifique, on a bien sûr du fichage, mais on a un État qui se construit en inventant des instruments, des fichiers, des cartes d'identité, des passeports, de la biométrie maintenant, etc.
Et donc, on rajoute toujours.
On a une sorte de gouvernance par les instruments, mm-hmm. C'est ça qui est intéressant, c'est comment on identifie les populations, comment on les contrôle et on les surveille par des instruments qui, alors initialement, surtout étaient inventés par l'État, maintenant sont surtout diffusés par le secteur privé de la sécurité.
Au départ, c'était inventé par l'État.
C'est-à-dire que Bertillon travaillait un petit peu en matière photographique avec des entreprises privées de l'époque, notamment la Cour Berthiaud. Mais grosso modo, tout le système est un système d'État. L'État a le monopole sur l'identification des personnes, le contrôle des populations. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment ces instruments-là, qui initialement sont mis en œuvre afin de répondre à une finalité particulière, Richard l'a dit tout à l'heure, l'identification des récidivistes, qu'on veut exclure du territoire métropolitain, hein, c'est la loi sur la relégation, on les envoie au bagne et en Nouvelle-Calédonie, comment progressivement ces instruments-là, qui sont des instruments universels finalement, peuvent être appliqués à des populations sans cesse plus larges. Ça va être notamment pour lutter contre les terroristes anarchistes à la fin du 19e siècle, ça va être pour contrôler les populations colonisées, ça va être pour stigmatiser les nomades, les tziganes, la catégorie administrative nomade, la loi de juillet 1912. Bref, on a une extension.
Et aujourd'hui, c'est les mêmes questions qui se posent autour du terrorisme, avec des banques de données de plus en plus larges.
Alors c'est vrai, quand on regarde la façon dont le bertillonnage s'est diffusé, ça fait vraiment écho à la diffusion des techniques actuelles. Hein. On a souvent pour cible les criminels, et souvent les criminels les plus dangereux. Quand on pense au fichier national automatisé des empreintes génétiques, c'est initialement les auteurs d'infractions sexuelles. Et puis progressivement, on a un élargissement à des populations mises en cause qui ne se réduisent plus à la population initialement ciblée.
Et puis ça peut aller, puisque vous vous intéressez à ça, jusqu'à des pays comme la Chine, où ça devient véritablement une surveillance d'État.
Une sorte de régime autoritaire numérique qui est assez inquiétant.
On se retrouve donc devant deux logiques différentes, hein, deux regards différents selon que l'on est commissaire ou chercheur, autour de la question comment la science a investi les scènes de crime et jusqu'où, avec vos deux regards d'experts. Je vous propose une musique d'expert, justement. Allez, vous allez reconnaître certainement. Léo sur RFI. Avec nos experts sur RFI, ça vous plaît, commissaire Richard Marlet? Je vous ai vu bouger là.
Oui, je suis un fan des Who depuis My Generation jusqu'à encore maintenant. Parce qu'il doit rester deux survivants des Who.
Donc bien avant les experts, hein, autour de la question comment la science a investi les scènes de crime. Nous sommes donc en votre compagnie, commissaire Richard Marlet, et en votre compagnie, Pierre Piazza, vous êtes chercheur en sciences politiques. Tout de suite, une question pour vous deux, soulevée par le chercheur en neurosciences Philippe Lachaud, spécialiste de l'attention.
Je pense qu'une personne qui arrive sur une scène de crime et qui est formée à ça a des biais attentionnels, c'est-à-dire va immédiatement remarquer certaines choses que le novice, moi par exemple, remarquerait jamais. Donc il y a peut-être moyen d'élaborer un peu. Quels sont les signes qui attirent particulièrement votre attention sur une scène ?
Richard Marlet, que pouvez-vous répondre? Qu'est-ce qui vous attire sur une scène de crime? Vous ne la voyez pas comme nous, on la verrait, mais nous, on serait d'abord... Ce serait peut-être impossible de regarder.
Ouais, je vais citer Alphonse Bertillon.
Alphonse.
Et qui disait, on n'observe bien que ce qu'on a déjà dans l'esprit. Donc en fait, il y a pour les... Alors on appelle ça des gestionnaires de scènes d'infraction, on appelait ça avant des techniciens de scènes de crime, il y a d'abord une grande formation, donc ils vont s'intéresser à tout ce qui est support traçogène. C'est-à-dire des supports qui sont susceptibles de porter des traces. Donc c'est les endroits par lesquels le malfaiteur a pu rentrer, l'endroit qu'il a utilisé pour sortir, les objets qu'il a fatalement touchés, les poignées de porte, meurtre, etc., 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 etc. Donc en fait, vous avez toute une formation à acquérir, et puis après, vous avez l'expérience.
Et justement, l'expérience, pour vous, commissaire, c'est quoi ? C'est-à-dire que, d'abord, comment vous faites sur cette scène de crime ? Parce que ce soit aussi dans ce livre magnifique, La science à la poursuite du crime, on a des images, des archives, enfin, terribles, hein, parce qu'il y a la mort qui est au centre d'une scène de crime, ça porte bien son nom. Donc, je ne sais pas, il faut que vous soyez fermé, quelque part, pour pouvoir supporter, et pour pouvoir mettre en action votre...
Je vais prendre juste un exemple. Personnel, vous me pardonnerez, en fait, j'ai connu les attentats de 95, à Paris, il y a une scène que je n'oublierai pas, c'est un attentat et la bombe explose alors que le RER est encore dans le tunnel. Et en fait, lorsqu'on arrive, le RER est ouvert comme une boîte de conserve. Et donc, il y a évidemment des victimes décédées et il y a beaucoup de blessés. Ce qui est redoutable, la vision évidemment de la scène est très dure, hein, mais ce qui est redoutable, c'est les heures que vous allez passer, parce que vous arrivez très très vite, hein, et il faut laisser les pompiers travailler, évacuer les blessés, etc. Quand vous êtes dans cette position de voyeur, à ce moment-là, c'est difficile. Dès lors que vous avez quelque chose à faire, un corps devient un objet. Voilà. Alors vous avez des gens qui ont beaucoup de mal à objectiver. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut, il faut éviter de se transporter, il faut faire autre chose. La police, il y a beaucoup de métiers. Hein. Mais en fait, il n'y a qu'à l'épreuve des faits qu'on saura si on tient ou si on ne tient pas.
Et vous avez aussi, en amenant toutes les techniques de police scientifique et technique, fait avancer quand même justement, alors non pas le délai quand on arrive sur une scène de crime, mais le délai pour arriver à exploiter ces traces. Aujourd'hui, les techniques ont quand même beaucoup évolué, vous me l'avez dit, enfin par rapport aux attentats, puisque la question des attentats terroristes nous occupe toujours.
La chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'évidemment, de toute façon, la durée d'exploitation est une durée longue, même si on essaye d'accélérer, et il faut se garder d'arriver à des conclusions de façon trop hâtive. C'est-à-dire que trouver des traces, c'est bien, et nos techniques permettent de trouver des traces, ça c'est évident, mais encore faut-il que ces traces soient pertinentes. Donc, vous avez évoqué Edmond Lecard. Edmond Lecard, c'est le père du principe de l'échange qui dit à l'occasion de son action criminelle, un malfaiteur laisse des traces de son passage et à l'inverse, il emporte des éléments de la scène de crime. Et là, il pose la question de la pertinence de la trace. Pour que la trace soit pertinente, il faut qu'elle établisse un lien entre l'auteur, la victime, l'auteur, la scène de crime, la victime, l'arme et l'auteur, etc., etc., etc. Ce sont juste ces traces-là qui sont intéressantes.
L'observation des riens, des petits riens,
c'est ça. Je suis un passionné aussi, évidemment, de Sherlock Holmes, et c'est une de ses phrases favorites. Vous connaissez ma méthode, elle est fondée sur l'observation des riens. Et puis, j'ajouterais, en fait, une deuxième phrase, c'est « jamais je ne devine, c'est une habitude détestable qui détruit la faculté de raisonner ».
Ah oui, il y a pas, il y a une construction, mais il y a pas.
Bien sûr.
Donc c'est pas comme dans les séries justement, d'un seul coup on a l'illumination.
En fait, vous avez, on peut appeler ça un raisonnement hypothético-déductif, de l'induction, de la déduction. En fait, vous posez une hypothèse et vous vérifiez en fait que votre hypothèse correspond bien aux faits tels qu'ils sont, mais vous ne devinez pas.
Pierre Piazza, quand on parle effectivement de la question des attentats, la question de la trace, la question de la pertinence d'une trace, c'est pareil. Jusqu'où aujourd'hui se pose la question des fichiers S, on a d'un côté, en tant que citoyen, à la fois l'envie de dire « oh là là, surtout ficher tout le monde », puis l'envie de dire aussi « mais non, surtout pas, parce que moi je veux pas y être ». Enfin, j'exagère un peu.
L'équilibre qui est compliqué à trouver, et on le voit avec le développement du bertillonnage, c'est où on s'arrête,
parce que je mentionnais
tout à l'heure, avec le bertillonnage, on a l'impression que ces techniques-là vont être appliquées à des populations sans cesse plus larges, y compris d'ailleurs via les papiers d'identité, qui vont cibler les tziganes, ensuite les étrangers, en bout de chaîne les citoyens. Et donc la question qui se pose, c'est finalement tout le monde veut une police efficace, bien sûr, mais l'accumulation des données, est-ce que l'accumulation de données est uniquement utilisée pour identifier les populations, les individus ? Est-ce qu'elle est faite pour les contrôler, pour les tracer, pour les surveiller? Et puis surtout, est-ce que ceux qui maîtrisent ces données, ceux qui les collectent, ceux qui les agencent, etc., sont eux-mêmes bien contrôlés et respectent des principes fondamentaux en démocratie que sont la vie privée, la présomption d'innocence, la liberté de circulation, etc. Et ces questions-là, elles se posent dès le bertillonnage, hein, dès la question du bertillonnage, où on voit qu'en effet, ces techniques-là, à l'époque, ont pu servir à des fins de stigmatisation. On pense en particulier aux Tziganes, hein, aux nomades, pour contrôler cette population, la forcer d'ailleurs à quitter le territoire, ou alors la forcer par des tracasseries bureaucratiques, le carnet anthropométrique, à se sédentariser, c'est-à-dire à devenir des citoyens normaux, en fait. Hein. Donc, vous voyez, l'usage des données policières peut servir, disons, pour des causes louables, identifier une personne, lui donner une identité unique à laquelle sont raccordés des droits, mais ça peut aussi servir à des fins, disons, plus stigmatisantes et répressives. Hein. C'est quelque chose de récurrent au cours de l'histoire.
Est-ce que vous y réfléchissez aussi parfois
comme bien sûr, évidemment, si vous voulez. Donc, la criminalistique, la police technique et scientifique, c'est toujours de la comparaison. Et en fait, la volonté, c'est pour ça qu'on parle de base de données, c'est de passer de la comparaison du 1 contre 1, c'est-à-dire que j'ai trouvé une trace digitale, par exemple, et j'ai un suspect, passer du 1 contre 1 au 1 contre N. C'est-à-dire, j'ai une trace et je vais l'envoyer en comparaison sur une base de données. Donc, c'est ce qui se passe avec le fichier des empreintes digitales, c'est ce qui se passe avec le fichier des empreintes génétiques, c'est ce qui pourrait se passer en termes de reconnaissance faciale.
Mmh. À venir, bien sûr.
Voilà, donc... et ça, quand vous êtes policier, et notamment, ce qui était intéressant justement dans l'ouvrage, c'était nos deux regards. Évidemment, quand vous êtes policier et que malheureusement, dans votre carrière, vous avez eu à connaître des gens qu'on n'a pas arrêtés parce qu'il n'y avait pas de base de données. Voilà, et que vous êtes allé sur les scènes de crime ou que vous avez côtoyé. Moi, je me souviens d'avoir essayé d'expliquer aux parents de deux victimes de Guy Georges pourquoi, en fait, on n'avait pas pu arrêter Guy Georges. L'exercice est parfois très compliqué. Hein. Très, très compliqué.
Oui, donc pour vous, après, évidemment, il faut avoir des bases de données, il faut pouvoir travailler en tant que policier. Vous faites parfois aussi appel à un autre genre d'expertise, carrément archéologie. Je propose d'écouter, à vous qui avez d'ailleurs au départ fait une maîtrise d'archéologie étrusque, je propose d'écouter l'éclairage d'un archéologue de l'INRAP. Il s'appelle Michel Pichon. Il travaille régulièrement sur les scènes de crime. On fait appel à lui. Charlie Dupiot l'a fait parler par téléphone.
Les scènes de crime peuvent prendre des allures extraordinairement complexes et différentes, parce que on comprend que les criminels ont une tendance à vouloir dissimuler les restes de leurs victimes, qui constituent les preuves les plus accablantes. Donc, on assiste très fréquemment à des déplacements de corps, et puis à des dislocations de corps, et puis à des crémations de corps, excusez-moi pour des détails un peu répugnants, mais c'est une réalité. Et donc, on va se retrouver avec des fragments osseux dispersés dans la nature. Et là, ça, ces fragments, même les médecins légistes, la plupart des médecins légistes ne sont pas capables de les identifier. Les chercheurs en archéologie qui s'occupent du funéraire ont développé depuis une trentaine d'années des méthodes, des stratégies et des compétences pour essayer de tirer des renseignements des faits funéraires, en particulier les plus opaques, qui sont ceux des restes de crémation. Et on arrive à identifier des fragments d'os qui sont de très très petite taille et qui ont été cramés. Et là, donc des gens comme nous peuvent intervenir très vite, parce que des archéologues spécialisés, on va en trouver un petit peu partout en France, qui vont se déplacer sur le terrain et qui vont leur dire très vite: oui, c'est de l'homme, ou non, c'est pas de l'homme. Et si c'est de l'homme, c'est tel morceau d'os, ça appartient à telle zone du squelette. Et puis parfois, on peut même aller beaucoup plus loin. Si on a de la chance, donner une fourchette d'âge au décès et voir si on a beaucoup de chance, tomber sur les fragments d'os bien conservés qui vont nous permettre de donner même un diagnostic sexuel sur les restes osseux. Et ça, pour les enquêteurs, ça peut être déterminant dès le début de l'enquête. Ils peuvent immédiatement transmettre au juge d'instruction des éléments concrets qui vont ensuite permettre au juge de prendre des décisions, par exemple de mettre des personnes en examen ou pas.
Vous voulez réagir, commissaire Richard Marlet, vous qui avez fait des études d'archéologie étrusque, hein, au départ, vous ne pensiez pas devenir commissaire.
Absolument pas.
Il y a un lien quand même entre les archéologues qui fouillent les restes du passé et puis les commissaires qui fouillent sur des scènes de crime, enfin, et la police scientifique.
Oui, le lien évident, c'est qu'il s'agit de remonter le temps. Donc évidemment, en archéologie, c'est un temps long. Pour une scène de crime, c'est essayer de remonter jusqu'au moment de la génération des traces. C'est-à-dire jusqu'au moment de l'événement. Alors après, la difficulté, c'est qu'en fait, on peut remonter le temps jusqu'à la création de ces traces-là, mais il faut savoir aussi les interpréter, parce qu'évidemment, on n'y était pas.
Bien sûr, il faut les interpréter, mais aujourd'hui, on a de plus en plus de traces à interpréter. Il y a toutes les traces ADN. Ça a quand même du tout changé. Enfin, les traces génétiques, en tout cas.
Moi, je pense que l'évolution par rapport à l'origine, c'est justement la multiplication des traces. C'est-à-dire qu'on a à la fois des traces ADN, vous avez aussi des traces, bien sûr, plantaires, palmaires. Vous avez des traces d'oreilles, quelquefois, dans les cambriolages. Vous avez des traces numériques, maintenant. Vous avez bornages. Vous avez...
Et de plus en plus de traces numériques.
Ce qui devient intéressant avec
des
tout
traces
ça, c'est
Des traces d'odeur. Ah oui, il y a des chiens.
L'odorologie, hein, on en parle dans l'ouvrage. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a un faisceau d'indices. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est ce faisceau d'indices qui fait qu'on ne s'attache plus seulement à établir les faits à partir d'une trace digitale, par exemple, mais on multiplie les possibilités en interprétant le minuscule et l'invisible. Et c'est ça qui permet certainement de résoudre beaucoup d'affaires.
Ça permet de résoudre des affaires, ça permet aussi, sur des lieux de catastrophe, on ne l'a pas tellement dit, mais aussi pouvoir identifier des victimes, très important. Un de nos auditeurs à Cotonou, au Bénin, nous parle du suicide et il dit est-ce que justement toutes ces techniques de la science, ces techniques scientifiques permettent de résoudre des cas de suicide, Richard Marlet? C'est une question qui se pose, c'est compliqué parfois.
La question qui se pose, c'est en fait, vous avez plusieurs articles du Code de procédure pénale qui évoquent les cadres d'enquête en cas de découverte de cadavres. Donc ça peut être des morts violentes, comme le suicide, des morts suspectes, c'est-à-dire des morts dont on ignore la cause ou l'origine. Et l'idée, c'est de se comporter dès lors qu'on trouve un corps, sans a priori, ne pas deviner, et surtout lorsque les conditions sont un petit peu particulières, et mettre en place toutes les techniques qui vont permettre de répondre à la question, en fait, mort naturelle, mort suspecte, mort violente, voilà. Et vous avez des cas qui sont particulièrement compliqués à remonter, à comprendre.
Donc il s'agit, en fait, où ces techniques permettent à la fois de créer des fichiers, on l'a dit, avec toutes les questions que ça peut poser, permettent d'identifier, permettent de savoir ce que c'était comme crime, et puis de rechercher, en cas de crime, l'assassin, ou d'identifier des victimes dans des cas de catastrophe, dans des cas...
C'est vraiment... si vous voulez, l'identification des victimes, même en matière d'homicide, en matière de meurtre, c'est vraiment la priorité.
Et c'est simplement... Savoir qui est mort.
Mais oui, simplement un recours aux statistiques, dans 80% des cas, plus de 80% des cas, l'auteur est dans l'entourage immédiat de la victime. Je me souviens d'être allé sur un plateau d'information continue au moment, vous savez, de cette affaire de la joggeuse qui avait été assassinée. Et on était parti, un certain nombre de commentateurs étaient partis dans une espèce de délire en disant c'est la 8e joggeuse assassinée, peut-être on a un tueur en série de joggeuses. Et je m'étais permis de dire qu'en fait, c'était un peu tôt et peut-être que tout simplement l'auteur appartiendra à ces 80% qu'on voit dans les statistiques. Et c'était.
Dans son entourage et dans
c'était
ses proches.
C'était le mari, enfin il était très proche. Quoi.
Donc surtout ne pas extrapoler, ne pas deviner, comme vous le disiez, c'est quand même ça la. Les vrais experts, c'est pas comme ce qu'on voit dans les séries.
Les experts, en fait, Bertillon le dit très tôt, Locard aussi, ils sont là pour constater des faits, tout simplement. Et c'est pas eux qui mènent l'enquête. Dans les experts, on a.
C'est
toute la différence. L'identité judiciaire, en fait, établit des rapprochements, comme le précise Richard, entre des traces et des empreintes pour prouver qu'une personne était là sur le lieu. Après, est-ce que cette personne qui était là sur le lieu où il y a eu l'infraction, le crime, etc., est le coupable, est l'auteur de l'infraction? Ça, c'est l'enquête qui le détermine. Donc c'est tout à fait autre chose.
Autour de la question comment la science poursuit le crime et jusqu'où, vous avez choisi, Pierre Piazza, d'écouter la fiche anthropométrique de Jacques Higelin sur RFI.
De femmes. sur le capot, garde-flic en double fil. Contrôle d'identité. Pas de passeport, pas de papier. Fiche anthropométrique. Simple formalité.
Formalité ou pas, la fiche anthropométrique du regretté Jacques Higelin sur RFI. Nous sommes en compagnie du commissaire Richard Marlet et du chercheur Pierre Piazza qui viennent de publier La science à la poursuite du crime aux éditions de La Martinière. Je signale aussi une exposition du même titre aux Archives nationales et puis toute une série de conférences qui auront lieu en cette semaine de la science sur et avec les experts de l'identité judiciaire, dont vous-même, commissaire Richard Marlet, autour de la question comment et jusqu'où la science poursuit le crime. Nouvel éclairage critique du neuroscientifique Steven Lorez de l'hôpital et de l'Université de Liège en Belgique.
Alors je suis très heureux que les commissaires et les détectives, juges, vont tenir compte des dernières connaissances scientifiques. Évidemment, il faut aussi rester critique quand on a ces machines, ces tests qui vont peut-être mieux identifier le criminel, le psychopathe. Souvent, ces études se font quand même sur des groupes de personnes avec une certaine incertitude. Et faisons aussi un peu attention. Qu'est-ce qu'on fait si on voit quelque chose d'anormal dans le cerveau du commissaire? Est-ce que cela prouve qu'il est peut-être dangereux pour la société et qu'il faudrait le mettre en prison? Comment utiliser la science, mais avec connaissance de cause et aussi toutes les précautions que cela implique?
Alors, Steven Lorez est spécialiste d'imagerie, d'imagerie cérébrale. Alors, je ne me prononcerai pas pour l'état, mental ou psychique de votre cerveau,
mais
commissaire Marlet, vous non plus.
Moi non plus.
Mais il soulève, Pierre Piazza, de vraies questions. C'est jusqu'où et comment
Richard
y faire
Marlet
confiance.
La bosse du criminel, on revient sur Lombroso.
On peut déduire
aussi ce que faisait Cesare Lombroso, à partir d'une physionomie particulière, dire que il y a des criminels nés, etc.
Oui, c'est ça, là, donc, tous les dangers.
Et à l'époque, c'était un peu considéré comme la science. Donc, il faut faire attention, en effet, aux effets parfois stigmatisants de la science.
Et à toutes ces techniques qui permettent de voir l'invisible, de sonder la matière, de voir l'intérieur de notre cerveau. En fait, c'est plutôt aux interprétations qu'on en fait, qu'il faut se méfier.
Oui, et puis parfois l'aveuglement de ceux qu'on appelle les experts. On a parlé de Bertillon, de Locard, ils se sont trompés tous les deux dans les affaires. Pour Bertillon, l'affaire la plus retentissante, c'est bien sûr l'expertise du bordereau dans l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire qu'il est convaincu de la culpabilité l'identité de Dreyfus et va tout faire pour le prouver. Donc il inverse le processus. Hein. Il aurait dû essayer de chercher si Dreyfus était coupable pour essayer de le prouver. Non, là, il est convaincu. Ou peut-être qu'il a une pression. On lui met la pression. Les autorités lui mettent la pression. Et du coup, il se trompe complètement dans l'expertise graphologique. Il appelle, lui, l'identification graphique. Et pourtant, lui est persuadé d'avoir raison, hein, que la science est mobilisée pour la bonne cause à l'époque. Donc, il y a aussi l'aveuglement de l'expert qui en dit aussi long sur la façon dont sa parole est perçue et reçue. C'est-à-dire qu'on la prend pour argent comptant parce que souvent, dans les deux cas, hein, notamment le procès en révision à Rennes, les membres du tribunal ne comprennent rien à ce que dit Bertillon, tout simplement. Hein. Mais comme c'est l'expert, la sommité, il l'écoute religieusement et boive ses paroles sans remettre en cause
attention,
ses propos.
Attention donc au poids qu'on donne à la science, aux techniques et en l'occurrence à la parole. Est-ce qu'il y a des garde-fous, justement? Est-ce que vous avez des garde-fous? Alors, je vous entends bien, commissaire Richard Marlet, vous dites « je ne devine jamais, il ne faut pas arriver avec des idées préconçues ». Enfin, on voit bien que vous êtes dans cette école-là, mais est-ce que vous êtes très entendu? Est-ce que tout le monde fonctionne comme ça? Est-ce que dans des périodes comme ce qu'on peut vivre en France actuellement, où il y a des menaces terroristes, est-ce qu'on n'a pas tendance à aller trop vite, trop loin, ou c'est plus facile de trouver un coupable? Enfin, c'est plus... Oui, c'est plus facile. Oui. Ça rassure tout le monde.
Peut-être, oui. Oui, et là encore, enfin, le temps de l'enquête n'est pas le temps de l'information.
Et oui, c'est ça, c'est ça.
Donc,
avant c'est pas immédiat.
De, bien sûr, avant de conclure sur le coupable et comme si ou comme ça, faut se donner du temps. Et on l'a vu tout récemment, en fait. Il faut accumuler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations.
Et vous l'avez, ce temps, aujourd'hui? Enfin, vous êtes aujourd'hui commissaire honoraire, mais vous l'avez aujourd'hui, ce temps?
Je vais vous reprendre un seul exemple, hein. Tiré notamment des attentats de 95. Hein. Saint-Michel, en fait, les gens de l'identité judiciaire restent quelques heures et font beaucoup de photographies. Bon. Le dernier de la série, c'est Port-Royal. On est resté 3 jours. Voilà, donc 2 jours dans les wagons et une journée à examiner le ballast, plus après une journée au laboratoire central de la préfecture de police.
Ah oui, c'est vraiment un travail de fourmi. Vous avez eu le temps. Vous avez eu le temps.
Bien sûr,
tout relever.
Et en fait, si vous voulez, ça tient. Là aussi, il se trouve qu'au moment de Port-Royal, un certain nombre de juges antiterroristes revenaient eux aussi d'un stage à Scotland Yard. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils ont découvert que une scène de crime, pour être traitée correctement, c'est du temps. C'est du temps.
Donc il faut du temps, il faut... personne n'a la science infuse, justement. Et Pierre Piazza, pour terminer peut-être, dans le flux de données, de traces qu'on laisse aujourd'hui, toutes nos traces numériques, on est parfaitement identifiables partout, elles sont stockées. Est-ce que ça pose de nouvelles questions ou c'est les mêmes et sur lesquelles il faut être de plus en plus vigilant?
Alors, je le disais tout à l'heure, ce qui posait la question d'un point de vue historique, si on prend les choses un peu dans l'ordre chronologique, c'était l'accumulation de données par l'État, hein, par la puissance publique. Bon, la grosse évolution qu'on connaît ces dernières années, vous la connaissez vous-même, hein, c'est l'accumulation de données par des acteurs privés. C'est presque plus le fichage des individus par l'État, mais en plus, c'est l'autofichage des individus.
Hein, c'est ça, on est consentant. C'est nous-mêmes qui alimentons les banques de données.
Qui alimentent sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Des informations qui, elles-mêmes, d'ailleurs, peuvent être prises par la police aussi, éventuellement. Donc, le danger, il est double. Je pense qu'on a toujours l'accumulation de données par les pouvoirs publics. Ça, il faut le contrôler. Mais peut-être que ce qui est plus inquiétant, ou en tout cas tout aussi inquiétant, c'est maintenant la masse considérable de données accumulées par des acteurs privés avec le consentement ou le pseudo-consentement des personnes qui sont fichées.
Donc pour rester vigilant et pour en savoir plus, je ne saurais trop conseiller à nos amis auditeurs et internautes de se plonger dans la lecture, les photos aussi, de cet ouvrage impressionnant, La science à la poursuite du crime, qui vient de paraître aux éditions de La Martinière, donc avec une magnifique iconographie. À voir aussi, si vous êtes en région parisienne, donc aux Archives nationales à Perfit, l'exposition du même nom jusqu'au 18 janvier 2020. Et puis toute cette semaine de fête de la science, un cycle de conférences passionnantes avec les experts de l'identité judiciaire. Franchement, entre le livre, les conférences et l'expo, c'est encore mieux qu'à la télé. Vous revenez quand vous voulez, messieurs.
Merci, merci beaucoup.
Merci.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous podcaster sur le site de RFI Savoir ou sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain pour nous mettre cette fois dans la peau d'un rat, d'un chimpanzé ou d'un oiseau. Autour de la question, à quoi pensent les animaux ? Rendez-vous demain avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de votre journal.